I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'enlèvement de Mia, 8 ans, le mardi 13 avril dans les Vosges, a fait la une de l'actualité. Ce fait divers a montré les conséquences concrètes que peut avoir le complotisme. Face aux enquêteurs, les suspects se sont présentés, je cite, comme des dissidents à un système barbare. Ils ont expliqué, en résumé, avoir voulu faire le bien en rendant une enfant à sa mère. Code Source a choisi de raconter cette affaire en deux épisodes. Le premier, aujourd'hui, consacré à l'enlèvement proprement dit, avec Doris Henry, correspondante du Parisien dans les Vosges, et Ronan Folgoas, de notre service police-justice. Le dimanche 18 avril, dans l'après-midi, le procureur de la République de Nancy refait le film de l'enlèvement de la petite Mia, retrouvée saine et sauve, quelques heures plus tôt, le matin même.
C'est vers 10h45 qu'elles ont été retrouvées et qu'il n'y a pas de difficulté quant à l'état de santé de cette petite fille.
On va raconter ce kidnapping, mais avant d'aller plus loin, Doris Henry, qui est la mère de Mia, Lola Montemaggi.
Lola Montemaggi, c'est une jeune femme de 28 ans. Elle a 20 ans quand elle a son premier enfant, donc Mia. Elle accouche à Montélimar, là où elle habite avec son compagnon et où sa belle famille est implantée.
Ronan Folgoas, les grands-parents paternels de Mia, d'un mot, qu'est-ce qu'ils disent de Lola ?
Dans l'interview qu'ils ont accordée aux Parisiens, les grands-parents paternels expliquent que très vite, ils ont eu la charge de l'enfant. Ils se sont occupés de Mia tout simplement parce que les parents n'étaient pas en mesure de le faire, notamment pour des raisons financières. Si bien qu'ils ont élevé, d'après leur récit, ils ont élevé Mia de sa naissance jusqu'à ses 5 ans.
Doris Henry, à cette époque, où vit Lola et que fait-elle dans la vie ?
Elle habite dans les Vosges, dans un petit village qui s'appelle Vanémont. C'est à côté des Poulières, c'est à une dizaine de minutes des Poulières, donc toujours dans le secteur de Bruyères. Elle vit de petits boulots, elle fait des extras, notamment dans les campings du coin qui sont ouverts en haute saison, on va dire de mars à octobre. Elle fait du nettoyage, elle fait de la restauration. Elle a aussi travaillé comme serveuse au casino de Gérardmer.
En 2018, elle participe au mouvement des Gilets jaunes et ça va la marquer.
Oui, alors elle participe dès le début à ce mouvement des Gilets jaunes, dès les premières manifestations. Et surtout, elle va participer tous les samedis aux manifestations, même quand le mouvement perd de son souffle. C'est quelqu'un d'assez rebelle, avec une attitude antisociale. Elle ne supporte pas l'autorité, qu'elle soit administrative, éducative et judiciaire. Et ce côté rebelle, elle le retrouve dans le mouvement des Gilets jaunes.
À ce moment-là, elle va beaucoup regarder de vidéos sur Internet, s'imprégner de théories plus ou moins complotistes, des vidéos qui vont aussi la conduire à s'affamer.
Oui, elle se renseigne beaucoup sur la manière de se nourrir, sur sa nourriture. Elle a peur d'être empoisonnée par certains aliments. C'est une amie à elle qui me l'a affirmé. Cette amie a reçu des vidéos de Lola qui s'interrogeait sur certaines théories selon lesquelles certains aliments ne seraient pas bons pour la santé, jusqu'à se priver de ces aliments. Elle en a eu des maux d'estomac. C'est une femme assez grande, Lola Montemaggi. Elle mesure 1m70 et elle a pesé jusqu'à 40 kilos, selon son père aussi, qui expliquait qu'il avait dû l'amener aux urgences pour des maux d'estomac.
Ronan Folgoas, sa fille, Mia, à quoi est-ce qu'elle ressemble ?
Mia a 8 ans, elle mesure 1m30, elle a les yeux noirs, les cheveux longs et bruns avec une frange.
Doris Henry, à partir de l'automne dernier, Lola Montemaggi ne cache pas qu'elle aimerait partir avec sa fille.
Oui, elle veut partir en camping-car pour passer en dessous des radars de la société, c'est ce qu'elle dit, sans aucune contrainte. Et c'est aussi pour ça qu'elle veut retirer sa fille de l'école.
Au mois de décembre, Lola perd la garde de Mia.
Elle perd la garde, elle n'aura plus le droit de la voir que deux fois par mois au domicile de la grand-mère aux Poulières, mais sans être seule avec elle. Et les motifs sont assez flous encore à ce stade de l'enquête. On ne sait pas encore exactement pourquoi elle a perdu la garde de sa fille.
À partir de là, Mia vit désormais chez sa grand-mère, la mère de Lola, dans le village des Poulières, dans les Vosges, à une trentaine de kilomètres d'Épinal. À quoi ressemble ce village et à quoi ressemble cette maison ?
Alors, le village des Poulières, c'est un tout petit village, hein. Il y a 250 habitants. La maison, c'est une maison de famille, donc où habite Corinne, la grand-mère, avec son nouveau compagnon. La maison est plutôt à l'écart du village, et c'est une ancienne maison qui a été rapidement rafraîchie, un jardin à l'avant, un terrain à l'arrière, et la famille est installée depuis environ 4-5 ans.
Ronan Folgoas, Lola est très choquée par la décision du juge des enfants, et elle en parle sur Internet.
Elle confie sa détresse à plusieurs internautes et notamment à un certain Bouga, c'est son surnom, il est domicilié dans le Doubs, c'est un quadragénaire, il ne va jamais mettre les pieds dans les Vosges, mais il a ce rôle d'organisateur, de logisticien.
Que se passe-t-il ensuite ?
Il va ensuite fédérer autour de lui plusieurs personnes pour lancer une opération qu'ils vont baptiser Lima, Lima comme L, l'initiale de Lola, et puis l'anagramme de Mia. Voilà, cette opération Lima va se monter. Rapidement, il va trouver 3-4 personnes autour de lui. Et puis ensuite, les choses vont s'organiser plus précisément.
Qu'est-ce qui motive ces hommes d'abord ?
Alors, ils sont réunis autour d'un ensemble de combats, de causes comme ça qu'ils veulent défendre. Et parmi ces causes, il y a le placement abusif des enfants. Ça participe d'une idéologie anti-étatique selon laquelle plusieurs milliers d'enfants en France seraient retirés de la garde de leurs parents pour des raisons abusives. Et donc, ils se lancent dans cette mission de restituer ces enfants placés à leurs parents.
Quels sont leurs profils ?
Alors, c'est très hétéroclite. Parmi les hommes qui ont été identifiés par les enquêteurs, on trouve un jeune de 23 ans, domicilié en Seine-et-Marne, qui vit chez ses parents, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé. Il y a aussi un pianiste intermittent du spectacle qui joue régulièrement dans un restaurant à Place du Tertre à Paris. Et on trouve aussi deux sexagénaires, un dirigeant d'entreprise et un homme sans emploi avec des troubles psychologiques.
Et ils vont trouver de l'argent pour mener à bien cette opération Lima.
Effectivement, un budget de 3000 euros va leur être alloué. On ne sait pas très bien à ce stade de quelle manière, d'où vient exactement l'argent. Mais cette somme va leur permettre de se procurer des talkie-walkies, des téléphones, du matériel de camping, tout un attirail pour mener à bien cette opération.
Que se passe-t-il le mardi 13 avril ?
Alors le 13 avril au matin, trois hommes prennent la route des Poulières et ils se présentent au domicile de la grand-mère de Mia. Il y a un chauffeur qui s'appelle Bruno et puis il y a Pichoun, le pianiste. Il est accompagné d'un certain Basile et Pichoun et Basile vont se présenter à la grand-mère comme étant des membres des services sociaux qui sont chargés de mener une visite inopinée au domicile pour vérifier que tout se passe bien pour Mia. Et suite à cette visite, ils doivent emmener Mia dans l'antenne locale des services sociaux pour mener un simple entretien. Et ils le disent tellement bien, avec des documents à l'appui qui crédibilisent complètement leur discours, ils le disent tellement bien que la grand-mère va y croire à ce discours.
Et donc les deux hommes conduisent la petite Mia jusqu'à un véhicule qui attendait devant.
Oui, c'est un véhicule utilitaire, un transporteur de marque Volkswagen dont ils ont maquillé le logo. Ils l'ont remplacé par le logo de Renault et ils ont aussi maquillé les plaques d'immatriculation.
Juste après, la grand-mère de Mia un pressentiment.
Elle a un doute et se demande si cette visite inopinée des services sociaux était au programme, était bien prévue. Et elle va passer un coup de téléphone pour vérifier. Et là, elle tombe évidemment des nues et on lui dit qu'il n'y a eu aucune visite des services sociaux officielle ce matin-là.
La grand-mère a donc été victime d'un kidnapping. Et le soir, la justice lance une alerte enlèvement.
Une alerte enlèvement a été déclenchée ce soir. C'est une fillette âgée de 8 ans qui a été enlevée ce matin.
Très tôt, la mère de Mia est suspectée par la justice de cet enlèvement. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit à demi-mot dès l'alerte.
Oui, effectivement, la maman fait partie des personnes qui sont susceptibles de participer à cet enlèvement. Les autorités savent très rapidement que la maman est en position délicate. Elle a perdu la garde de son enfant et ils supposent très rapidement qu'elle a voulu la récupérer.
À ce moment-là, où les trois hommes ont-ils emmené Mia ?
À proximité immédiate du domicile de la grand-mère, c'est dans un village juste à côté, sur un parking, là où attend Lola, la maman, et un autre homme du commando de l'opération Lima.
Doris Henry, vous, le mercredi pour Le Parisien, vous allez rencontrer la famille de Mia devant la maison de sa grand-mère dans la commune des Poulières. On imagine qu'ils sont inquiets ?
Oui, forcément, et toute la famille qui fait corps dans la maison autour de la grand-mère, dans son domicile familial. Ça fait donc 24 heures que la petite a disparu. Alors ce jour-là, je parle à l'oncle de Mia par la fenêtre et l'entrevue est assez brève, mais on voit que son visage est très marqué et surtout, ils veulent avoir des nouvelles de la petite, surtout en bonne santé.
Vous entrez aussi en contact avec l'actuel petit ami de Lola. Lui, qu'est-ce qu'il vous dit de tout ça ?
On se parle par message. Une de ses phrases qui m'a marquée, c'est « Je n'ai plus confiance en personne ». On se parle 24 heures après les faits, 24 heures après l'enlèvement. Il me déclare aussi son amour. Il me dit « Lola et moi, on est très fusionnels. Elle me manque. J'espère qu'elle va vite revenir ».
Ronan Folgoas, l'enquête va très vite. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les hommes soupçonnés d'avoir enlevé Mia sont interpellés.
Trois hommes, en effet, vont être interpellés en région parisienne. L'un, notamment, à Paris, dans le 19e arrondissement. Un autre au Lila, en Seine-Saint-Denis. Et enfin, le troisième, en Seine-et-Marne.
Est-ce que les enquêteurs trouvent des objets ou des éléments intéressants pendant les perquisitions ?
Ah oui, oui, très intéressant même. Ils vont découvrir notamment un sachet contenant une poudre blanche qui peut servir à fabriquer des explosifs.
Ils étaient surveillés par le renseignement intérieur, la DGSI. Pourquoi ?
Au moins trois hommes étaient effectivement suivis par la DGSI dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par le parquet national antiterroriste. Ces hommes sont soupçonnés de vouloir organiser des actions violentes contre des centres de vaccination et, d'après ce que l'on comprend, des établissements bancaires, des institutions publiques.
Que disent-ils pendant leur garde à vue ?
Au moins trois des quatre hommes placés en garde à vue assument complètement leur implication dans le rapt de la fillette. Ils utilisent un langage militaire pour décrire une opération d'exfiltration. Ils assument complètement leur position. Ils se décrivent comme des dissidents opposant à un système barbare.
Doris Henry, les auteurs présumés de l'enlèvement ont été interpellés, tout comme le fameux Bouga qui, lui, est resté à distance. Ils seront tous les cinq mis en examen pour enlèvement en bande organisée d'une mineure de moins de 15 ans et association de malfaiteurs. Mais à ce moment-là, on ne sait toujours pas où sont la mère et la fille. On imagine que sa famille, ses proches sont inquiets.
L'oncle est très inquiet. Il n'y a toujours pas de nouvelles de la petite Mia. Ils espèrent qu'elle est toujours en vie. L'oncle, sur le ton de la colère, qui me dit aussi une phrase au sujet de Lola. Faut pas être clair dans sa tête pour faire une chose comme ça. Et puis, une amie de Lola que je contacte par message m'explique que Lola est allée dans l'extrême et qu'elle a peur que Lola se suicide avec la petite Mia.
Le même jour, le père de Lola Montemaggi parle à la radio Vosges FM et ce qu'il dit est plutôt surprenant. Il reconnaît d'abord que Lola a pu se montrer violente dans le passé.
Elle était en pleine souffrance, bien sûr, des fois il y a des gens qui souffrent et qui sont violents. Oui.
Doris Henry, surtout, il soutient sa fille, Lola.
Il dit qu'elle a raison d'avoir récupéré sa fille.
C'est bien ce que t'as fait, ma fille, t'as protégé ta fille, c'est bien. La justice ferait mieux d'aller balayer un peu devant sa porte avant de traiter les autres de rapteurs d'enfants.
Selon lui, les placements de l'aide sociale à l'enfance sont abusifs et il espère aussi, c'est ce qu'il a dit à nos confrères de BFM TV, il espère que Lola, avec cet enlèvement, devienne un modèle pour les autres familles, les autres parents qui sont privés de garde.
Ronan Folgoas, le samedi 17 avril, dans la soirée, Lola et sa fille sont localisées par les enquêteurs.
Les enquêteurs de la police fédérale suisse, qui est impliquée aussi dans l'affaire, vont effectivement avoir une information assez précise. Ils vont pouvoir localiser Lola et Mia dans un squat qui est situé sur la commune de Sainte-Croix, non loin de la frontière franco-suisse.
Est-ce qu'on sait comment Lola et sa fille sont arrivées jusqu'ici ?
L'enlèvement a lieu mardi 13 avril en fin de matinée. Lola et Mia sont conduites près de la frontière franco-suisse. Ensuite, elles sont accompagnées toujours par les hommes du commando Lima au cours d'une randonnée qui va durer à peu près 2 heures, le temps de passer la frontière. En passant sous les radars policiers au cours de cette randonnée, les hommes se relaient pour porter la petite Mia. Arrivé côté Suisse, un Français domicilié en Suisse va prendre la mère et la fille en charge et les transporter à bord de sa Porsche Cayenne jusqu'à un hôtel situé dans le canton de Fribourg. Là, eh bien, Lola et Mia vont passer leur première nuit. Ensuite, elles vont prendre un taxi pour rejoindre une personne sympathisante de leur cause qui va les héberger pendant une autre nuit à Neuchâtel. Cette personne va les conduire dans ce squat sur la commune de Sainte-Croix.
Et ils interviennent le dimanche.
En milieu de matinée, ils vont effectivement investir le squat. La maman va être placée immédiatement en garde à vue et la fille, Mia, bien récupérée par les services d'enquête.
Merci à Doris Henry et Ronan Folgoas. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous allons revenir en détail sur les motivations de cette opération Lima, sur les profils de ceux qui y ont participé. L'un d'entre eux a d'ailleurs parlé à l'un de nos journalistes, Jean-Michel Descugis, du service police-justice du Parisien, qui sera dans le prochain Code Source. Cet épisode a été produit par Raphaël Thomas, Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation, Benoît Laure. N'hésitez pas à nous écrire, codesource@leparisien.fr. Et si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.